Minute de silence et gerbe de fleurs. À Saint-Denis, dans Paris, devant le Bataclan, le même recueillement en hommage aux victimes du 13 novembre 2015. 130 morts, près de 500 blessés, dans les pires attaques djihadistes jamais perpétrées en France.
Bertrand Navarrete, Christopher Neuchâtel-Bodinot,
Yannick Mainviel.
3 ans après, la France a appris à vivre avec la menace terroriste.
Est-ce qu'aujourd'hui, la menace terroriste est toujours aussi forte ?
Elle reste élevée. Elle reste élevée même si elle a changé de forme.
En 2015, l'organisation État islamique, alors toute puissante, avait planifié les attentats du 13 novembre depuis ses bastions syriens et irakiens. 3 ans plus tard, les djihadistes ont perdu 98% des territoires qu'ils contrôlaient. Pour autant, la coalition antiterroriste internationale ne crie pas victoire.
Ne vous y trompez pas. L'État islamique a implosé, mais d'une certaine façon, ils ont renforcé leur noyau dur.
Comme cela a été indiqué, le travail n'est pas tout à fait terminé et nous resterons impliqués au Levant.
Daesh se recompose, s'adapte et cherche toujours à galvaniser de nouvelles recrues sur le net, comme dans cette vidéo de propagande mise en ligne il y a quelques jours. L'État islamique tisse sa toile jusqu'en Indonésie, aux Philippines ou encore en Afghanistan où un nouvel attentat a frappé Kaboul hier. Alors l'organisation État islamique menace-t-elle encore la France ? Sommes-nous préparés à y faire face ? Sans territoire, Daesh peut-il renaître de ses cendres ?
Bonsoir Thibault de Montbrial, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Selon vous, nous sommes dans une période de faux calme. C'est contraire à ce que dit Christophe Castaner. Et le risque d'attentat en France est toujours très élevé. Daesh adapte sa stratégie au progrès des services de renseignement. À côté de vous, Kamal Redouani, bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste de Daesh. Vous avez fait paraître chez Flammarion cette enquête extrêmement fouillée, extrêmement documentée dans le cerveau du monstre, qui accompagnait d'ailleurs un documentaire diffusé sur une des chaînes de France Télévisions. Kamal Redouani, vous estimez que Daesh a compris que la formation de nouvelles recrues est plus importante que le fait de posséder des territoires. Et pour ces recrues, commettre un attentat en Occident reste un objectif important, peut-être même prioritaire. Nous avons Myriam Benrad aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste spécialiste du Moyen-Orient et du monde arabe. Et vous estimez que depuis 2015, la France s'est mise au niveau en matière de lutte antiterroriste. Et le principal enjeu est désormais celui de la déradicalisation pour lutter contre les discours de propagande. Vous avez sélectionné la première question
oui.
du débat, une question d'un de nos spectateurs, Nadia.
Oui, qui voudrait savoir s'il existe encore aujourd'hui en France des réseaux terroristes actifs ou dormants qui sont capables de commettre des attentats du niveau du 13 novembre. Thibault de Montbrial, les attentats du 13 novembre 2015 avaient ceci de particulier, c'est que c'était des attaques simultanées avec des commandos coordonnés qui avaient ciblé plusieurs lieux et personnes en même temps. Est-ce qu'un tel scénario pourrait se reproduire aujourd'hui en l'état ?
La réponse la plus courte, c'est oui. Il faut élaborer. Ce serait sans doute pas un commando projeté depuis Raqqa, comme on l'a connu en 2015, puisque l'État islamique n'a sans doute plus la capacité opérationnelle de projeter depuis l'étranger jusqu'à l'Europe un commando structuré, parce qu'ils ont d'autres soucis avec les pertes territoriales dont vous avez parlé dans l'introduction. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux combattants qui ont été combattants en Syrie, en Irak, qui n'y sont plus, qui n'ont été ni tués ni arrêtés, et qui, pour les services de renseignement, ne sont pas simplement les francophones, parce que les médias français...
Ils sont hors des radars, vous voulez dire? Alors, ils sont ni en prison,
alors,
ni...
Ils sont des gens qui n'ont été ni tués, ni arrêtés. Donc, ouais. ils sont, on ne sait pas où ils sont. Et il faut savoir que les services de renseignement ne travaillent pas sur les Français. On dit toujours, il y a 700 Français, etc. Ils travaillent sur les francophones. Les francophones, c'est les Belges, les Français et les ressortissants des 3 pays du Maghreb. Mmh. Ça fait plus de 5000 personnes qui sont aguerries, qui sont des combattants formés, expérimentés, et dont on craint qu'à un moment ou à un autre, ils ne reviennent en Europe. Certains y sont sans doute déjà, mais on ne sait pas combien. Et que, sur leur prestige, ils recrutent parmi les individus qui, aujourd'hui, font ce qu'on appelle les attentats ciblés individuels, la menace endogène, qu'ils recrutent ces gens-là et qu'ils soient capables d'actes beaucoup plus militaires sur le territoire européen et en particulier en France.
Alors, ça fait beaucoup de points. On va y revenir, on va les développer. Mais d'abord, on va se concentrer sur un chiffre, le chiffre du jour. Six. Combien d'attentats ou de menaces ont-ils été déjoués en 2018 ?
Selon le ministère de l'Intérieur, 6 attentats ont été déjoués en 2018, mais c'est tout type d'attentats confondus, c'est-à-dire y compris celui ou ceux, on n'a pas le détail, venant de l'extrême droite et qui avait visé les plus hauts sommets de l'État. En tout état de cause, en tout cas, il semblerait que ce soit en réelle diminution. Alors Myriam Benrad, est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que c'est un recul temporaire selon vous ?
Mais c'est une question importante parce que, en fait, ça renvoie aussi à l'imaginaire qui s'est cristallisé après le 13 novembre. On s'est mis, en fait, un peu en position d'attendre quel est le prochain. Et puis après, on a eu une succession d'attaques, 2015, 2016, 2017. Donc un rapport finalement au temps, à l'espace, qui a changé pas seulement d'ailleurs au niveau des services de renseignement qui ont dû s'adapter, donc anticiper finalement la menace, qui ont démantelé un certain nombre de réseaux, qui évidemment ont aussi placé sous surveillance un certain nombre d'individus radicalisés. Mais je pense que plus largement au sein de la population française, on s'est mis dans une espèce d'obsession collective de la maîtrise du temps, de l'espace. Alors on en sort un peu parce qu'il y a une accalmie, et ça a été reconnu par le procureur François Molins au cours de l'été. Ils ont connu un été relativement calme. Maintenant, je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus penser que c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des aspects militaires, des filières, etc., il y a une idéologie derrière qui est toujours là et qui d'ailleurs précède les attentats du 13 novembre.
Kamal Redouani, vous souscrivez à cette analyse ?
Tout à fait. L'idéologie est très importante, tout simplement. Mais comment combattre une idéologie ? Comment ceux qui sont en prison aujourd'hui, qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, comment peut-on être sûr qu'ils ont changé d'avis, qu'ils ont changé d'idéologie ? Enfin voilà, ça c'est un sacré problème. Après, sur le terrain, moi, en Turquie par exemple, à la frontière entre la Syrie et la Turquie, j'ai rencontré des jeunes djihadistes qui prenaient le départ pour l'Allemagne. C'était en 2013. D'autres en Libye qui partaient en Europe. Donc il y a des gens qui sont sur le territoire aujourd'hui, qui ne sont pas sous les radars et qui, effectivement, dont on ne sait rien et qui peut-être sont en train de s'adapter. Il faut un temps à quelqu'un qui arrive pour pouvoir s'adapter sur le terrain, pour pouvoir prendre le métro, comprendre comment on prend le métro, pouvoir acheter des armes, pouvoir s'organiser, etc. Donc malheureusement, c'est un vrai combat et c'est un vrai combat que les services de renseignement sont en train de mener.
Alors on va voir si c'est mené efficacement et avec quelles armes. Mais d'abord, fait-on écouter quelqu'un ? Et oui, par rapport à l'ancien proto-État.
Oui, parce que depuis 3 ans, en effet, l'État islamique a perdu 98% de son territoire. Mais certains, comme le président russe Vladimir Poutine, veulent aller jusqu'à 100% et traquer les derniers d'entre eux. Donc on le regarde. Il a fait une déclaration récente en ce sens-là.
Même si le niveau de violence en Syrie a considérablement baissé, l'élimination de l'ensemble des éléments radicaux concentrés dans cette zone reste un problème majeur. Nous ne pouvons pas laisser ces militants, qui ont acquis de l'expérience de combat, continuer leurs activités criminelles, créer des cellules dormantes dans nos pays, recruter des partisans et continuer à prêcher leur idéologie de terreur.
Donc Myriam Benrad, est-ce que Daesh c'est fini ? Est-ce que c'est une organisation en état de ruine aujourd'hui ?
Alors le proto-État, oui, ce qu'il avait réussi à constituer sur un certain nombre de territoires entre l'Irak et la Syrie, c'est fini. Il y a eu une campagne de bombardement, je le rappelle, qui a été...
On voit les cartes, hein, d'ailleurs, de janvier 2015 versus
voilà, la peau de chagrin.
Oui, c'est une peau de chagrin. C'est-à-dire qu'ils ont encore quelques fiefs, mais enfin, il y a eu des bombardements massifs à la fois américains, russes, avec l'appui au sol des forces irakiennes et d'un certain nombre de forces syriennes. Donc ce califat, c'est fini. D'ailleurs, on le sent aussi chez les revenants, chez ceux qui ont fait défection. Ils y croient plus, ils sont soit dégoûtés de ce qu'ils ont vu sur le terrain, soit cette promesse, cette utopie.
Il faut les croire sur parole quand ils disent qu'ils ne croient plus à l'idée.
Alors je pense que ça dépend des gens. C'est peut-être aussi le sujet en France, effectivement, quand on parle de déradicalisation. Mais en tout cas, au niveau du Moyen-Orient, ça ne veut pas dire pour autant que c'est réglé, parce qu'ils sont revenus à la guérilla, à la clandestinité. Tous les jours, quasiment, en Irak, on a des attentats, par exemple. Ils assassinent aussi un certain nombre de personnalités. On a vu l'assassinat de Miss Irak, qui avait été menacée depuis des années. D'autres personnalités, des députés. Alors, les femmes, par exemple, sont notamment en ligne de mire ces temps-ci. Et du côté syrien, il y a une relance de l'opération qui avait été déjà conduite, enfin, des opérations déjà conduites entre les Américains et les fameuses forces démocratiques syriennes à l'Est. C'est quand même intéressant, parce que, rappelez-vous, au moment de la bataille de Raqqa, on avait dit « ça y est, c'est fini ». Ils ont constamment besoin de relancer les offensives, parce que c'est un groupe qui se reconstitue et qui, lui, encore une fois, pour revenir à l'aspect idéologique, n'a absolument pas dit son dernier mot.
Thibault de Montréal.
L'islamisme politique et en particulier son penchant terroriste peut être l'expression soit de cellules, on a parlé de métastasisation de Daesh, donc des cellules qui se sont transportées hors d'Irak et de Syrie et qui se reconstituent en Libye, en Tunisie et sans doute demain d'une manière ou d'une autre en Europe. Ça peut aussi être des déclinaisons, c'est-à-dire des gens qui décident de créer un nouveau groupe avec des questions d'ego, de personnes, enfin tout est possible.
On pourra financer autant, parce que Daesh c'était aussi une matrice financière.
Alors Daesh avait s'était servi de son proto-État et notamment du commerce du pétrole et du coton pour financer abondamment une véritable petite armée. Mais pour financer des groupes de quelques centaines de combattants en Europe, il n'y a pas besoin d'autant d'argent. Mmh. Des attentats aujourd'hui avec des moyens relativement rustiques ne coûtent quasiment rien. Le Centre d'analyse du terrorisme avait fait une étude sur le financement du 13 novembre. Oui. On était arrivé à entre 30 et 50 000 euros. Mmh. C'est rien.
Alors précisément Nadia, parlons des sources financières et de l'état financier de l'organisation État islamique.
Oui, parce que du temps de son apogée territoriale, donc en 2015, Daesh avait engrangé un véritable trésor de guerre qui s'élevait à 6 milliards de dollars. On en parlait à cette époque-là comme de l'organisation terroriste la plus riche de l'histoire. Ils ne sont pas devenus indigents pour autant aujourd'hui. Ils ont moins d'argent, mais ils ont aussi moins de besoins, moins de postes de dépenses. Ils n'ont pas de salaire à verser, par exemple. Et aujourd'hui, on a plusieurs spécialistes du financement du terrorisme qui nous expliquent que l'État islamique sera en train de se refaire une santé financière par plusieurs biais. C'est ce que dit par exemple le site américain Foreign Policy, qui cite un politique irakien, qui explique que les dirigeants survivants, ceux qui ont été ni tués ni arrêtés, ils seraient parvenus à sortir sans pas les mains vides, mais avec 400 millions de dollars d'Irak et de Syrie, ce qui constitue quand même un assez bon matelas. Et puis, et ça c'est un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui le dit, l'État islamique aurait toujours la jouissance de quelques rares mais bien réels puits de pétrole en Syrie. Là encore une source de revenus conséquente. Puis enfin, et ça c'est la thèse assez intéressante d'un spécialiste du terrorisme américain qui s'appelle Colin Clark, il explique que l'État islamique pourrait se renflouer en rackettant les personnes et les entreprises qui sont chargées aujourd'hui de reconstruire Mossoul. Et c'est une thèse d'autant plus plausible que les transferts d'argent se font en cash et assez loin des banques. Donc ironiquement, c'est l'après-Daesh qui pourrait permettre à Daesh de financer son retour. Kamal Redouani, est-ce que ça prouve cette histoire-là d'argent qui n'est pas rien, la capacité des organisations terroristes, dont l'État islamique, à se réinventer, à muter?
Et il se réinvente. Si on prend l'exemple de la Libye, par exemple, avant la chute de Sirte en Libye, ils ont réussi à faire sortir des responsables, des formateurs pour créer un autre groupe.
Une autre école du djihad.
Exactement. Et pour se financer, si on revient au financement, pour se financer, ils utilisent les déplacements, ils utilisent au fait tout ce qui est contrebande dans le désert, qui aujourd'hui est un espace complètement ouvert, l'espace libyen, et donc ils utilisent ça pour s'enrichir. Il y a de la contrebande d'or, d'armes, et ils utilisent aussi la traversée pour racketter ceux qui veulent essayer de venir en Europe. Donc ils ont les moyens, et ça ils savent le faire depuis des années. Ils reviennent simplement à ce qu'ils étaient avant, et ils reviennent à ce que faisait Al-Qaïda.
Plus de clandestinité, mais pas moins de pouvoir de nuisance.
Tout à fait. La question, elle est simple. Al-Qaïda n'a pas disparu. Pourquoi Daesh va-t-il disparaître, tout simplement?
Mme Menrad, sur cette question du financement du trésor de guerre,
oui, alors,
soit l'argent pillé à Mossoul ou le pétrole ou...
Oui, alors le financement, enfin la question du financement, elle doit être à mon avis appréhendée c'est un processus, c'est une dynamique de long terme, hein, puisqu'ils ont repris aussi à leur compte des activités illicites qui avaient déjà cours, si on prend le cas de l'Irak. La contrebande d'antiquités, par exemple, mésopotamienne, la contrebande de pétrole, ça avait déjà cours depuis de longues années. Donc, ils ont repris ça à leur compte. Et l'autre point, à mon avis, important, c'est la question des intermédiaires. Parce qu'en fait, c'est grâce aux intermédiaires, aux complices parmi les populations civiles, que tout ça aussi continue.
Donc, ça il y a des complicités encore dans la population.
Oui, évidemment, parce que c'est aussi une source de survie, tout simplement, pour des gens qui sont dans le dénuement. Je rajoute une chose peut-être importante, il n'y a pas de reconstruction dans les territoires comme Mossoul, dans ces provinces qui ont été libérées. Donc on est dans un état de survie, et la population, oui, bien sûr, va participer, faute de mieux.
À quoi servira ce trésor de guerre? À financer les attentats, à quoi peut servir ce trésor de guerre reconstitué, Kamal Redouani?
À se refaire une santé, ouais. À recruter. Exactement. Il faut bien payer. Enfin, dans tous les cas, c'est des mercenaires avant tout, donc il faut bien les payer, il faut bien les